Anka se réveillait après ses parents. Il s'emparait du seau et s'en allait au puits. Le quart d'un tonneau à remplir d'eau, voilà ce qu'on exigeait de lui. Pour ne pas s'attirer des reproches, il s'appliquait à sa tâche. Il n'était pas rare qu'il fasse du zèle. Un ou deux seaux de plus, du bois mort ramassé du côté du marécage, ça valait bien la peine pour mériter le silence de ses parents. Sa corvée terminée, il lui arrivait de se débarbouiller, mais seulement s'il lui venait à l'esprit que la crasse bien visible sur son cou pourrait fâcher sa mère. Puis, ayant mangé à la hâte les restes du repas d'hier, il s'en allait par les sentiers salis de détritus vers les hangars qui servaient d'école aux enfants de Petite Venise. Il était dans la classe de maître Bonneau. Le maître, c'était un homme tout fluet et cependant d'une férocité à faire fuir quand il vociférait et crachotait avant de s'abattre comme l'orage sur la classe pétrifiée. Mais qu'importait à Anka la peur mêlée d'ennui entre tableaux noirs et livres de lecture. Les heures insupportablement longues qu'il passait auprès du maître avaient au moins un avantage. Elles ne prétendaient pas lui arracher ce qu'il tenait pour essentiel. Il n'ignorait pas que, comme son père et sa mère, maître Bonneau était là pour éclairer. Néanmoins, avec le maître, ce n'était pas tout à fait pareil. Quand père et mère parlaient, c'était pour démentir. Maître Bonneau, au contraire, le confortait à tout instant dans l'idée qu'il n'y avait rien d'important. Rien, en tout cas, qui vaille une blessure. Le maître disait qu'il fallait chanter, et rien dans son ordre n'impliquait un sous-entendu. Il ne vous engageait à rien, le maître. Il voulait que vous chantiez cette chanson-là, à cette heure-là, un point, c'est tout. Alors Anka chantait de bon cœur. Quand le maître disait « deux et deux font quatre », Anka répétait. Il lui aurait dit « deux et deux font cinq » qu'Anka aurait répété pareillement. Le maître exigeait pourtant de lui, y compris l'amour pour ce pays qu'il devait voir, beau et grand avec des fleuves à droite et à gauche, des tas de choses précieuses sous terre. Et tous les enfants illustres qui ont fait son glorieux passé, et ces autres bien vivants encore, mais non moins illustres, qui continuaient à le bâtir fort, beau et prospère. Anka ne voyait aucun inconvénient à cet amour-là. Ça ne lui coûtait rien d'essayer. Et si, d'aventure, il ne prouvait pas qu'il aimait assez, que risquait-il? Tout au plus quelques coups de truc. On ne meurt pas de ça. Mais il savait qu'on pouvait mourir de vouloir regarder le monde avec d'autres yeux. Il ne faudrait pas croire pour autant que c'était maître Bonneau qui faisait courir Anka vers l'école. Il y allait dans son propre intérêt. N'était-ce pas dans la cour de récréation que la conquête de sa contrée autonome commençait? L'école annonçait l'envol. Ne pas être présent à l'heure de l'appel, c'était se mettre hors jeu. Pour rien au monde, Anka ne se serait hasardé à risquer la sensation du sang qui reflue vers les tempes. Son cœur qui cogne, la sueur, le fou rire. Ah, l'ivresse du jeu, quand le taillis emménagé prend cette solennité de sanctuaire où chaque geste s'inscrit dans un rite. Du piège à perdri qu'il tendait en silence, jusqu'à cette brindille qui lui disait qu'il n'était pas mal, son sexe, mais pas encore le plus long de la bande. En cas jouait. Il étalait en plein jour son intransigeance. Qu'avait-il à faire d'un ancêtre, puisqu'il avait Petite Venise pour lui? Qu'avait-il besoin d'être là-bas, du temps où, disaient les autres, l'homme était debout, puisque lui ne ployait pas? Quel miel irait-il chercher ailleurs, puisqu'il s'en repaissait ici? Il n'y avait, jusqu'à cette partie où le quartier s'embourbait dans le marécage, qui ne le nourrissait. À lui les étangs à têtards. À lui les terrains truffés de dangers. Il partait en voyage sur les images froissées d'une revue en couleurs sauvée des détritus. Entre ses doigts, un coléoptère était un avion. L'avion déployait ses ailes et l'emportait au loin. Le monde lui paraissait si vaste, si lourd à porter, qu'il revenait toujours de bon cœur à Petite Venise, où il n'aimait rien tant que sa bien-aimée, qui avait son âge et dont il ne dirait à personne le nom. C'était son épouse à lui. mais il ne lui en voulait pas pour son ventre. Il lui donnait la réplique en silence, sur tous les tons. C'était pour elle qu'il allait parfois vers les pièges à perdrix. Si l'oiseau était pris, il le lui apportait. La course, l'envol, le cœur qui cogne, cette bonne fatigue en fin de journée, et le sommeil qui vient, facile, profond, il n'y avait rien de tel, rien de plus essentiel en ce monde. Dans son territoire de frissons tissés de fragiles instants, d'autant plus fragiles qu'en cas les sentait menacés, tout était fait qu'il désirait éternel. Pour préserver sa cérémonie de toute intrusion intempestive, il enfourchait une monture de contradictions, faisant fi de toute logique qui heurtait la sienne. Au gré de ses randonnées, il bousculait les évidences, et cela d'une manière si naturelle, sans le moindre effort ni les hésitations qu'exigent les froids calculs. En lui, pourtant, aucun sentiment de troquer la réalité contre un monde illusoire, puisque l'émoi en cette fête était aussi palpable que le mal de vouloir à tout prix voir, il disait tout simplement qu'il préférait l'émoi. Dans ce quartier de misère grimé de négation, il s'agrippait à cela même qu'il faillit perdre là-bas, quand l'ancêtre s'en alla, le laissant pantelant, et qu'il apprit que l'action si simple de respirer n'allait pas de soi. La course, en cas, l'envol, ton cœur qui cogne, cette bonne fatigue en fin de journée, et le sommeil qui vient, facile, profond. Il venait, le sommeil, à condition que rien n'arrêtât le regard pour donner ce front plissé qu'Anka voyait à son père, à sa mère, à tous ceux qui s'en revenaient de l'autre côté des collines, telle une horde de blessés, à l'heure où lui balançait entre la pitié et la haine et qu'il optait pour l'indifférence. Il était indifférent à ces fronts ravagés. Comment les prendre en compte sans qu'ils vous entretiennent de quelque trahison, de sensations de terre qui se dérobe aux pieds, de sang qui se fige et vous laisse sec, vide, ployé, comme mort? Alors Anka tournait le dos pour emprunter la voie souterraine qui menait à son édifice. Là, il se barricadait. Il se calfeutrait du mieux qu'il pouvait dans la résolution de ne rien exiger, de se contenter seulement de son souffle qui ne savait pas marchander. Son souffle. Mais comment nommer la vague qui portait sa barque jusqu'à l'îlot secret où tout chamaille se taisait? Ce fut en lui cet éperon, ce fouet, cette fougue qui faisait qu'au coucher, l'horizon rougeoyait de nostalgie. C'est qu'il avait joué toute la journée durant. Il avait tant joué que, malgré lui, son rire aurait pu servir d'alibi aux marchands d'impressions qui nient la détresse parce qu'elle ne se vend pas. Le sourire de la forêt, en voulez-vous? En voilà! Mais qui leur aurait dit toute la dextérité derrière le rire d'un enfant à Petite Venise? Voyez donc le morne et la joie cohabiter. Ici, les précieuses parcelles de petits riens puisées dans le mouvement. Là, l'odeur infecte d'un bourbier qui coupait l'élan. Il s'épiait, se poursuivait, se hélait. Quand l'un prit-il le pas sur l'autre, Anka ne saurait le dire.